à tous. Ils étaient une centaine d'éleveurs et sympathisants réunis jeudi devant la ferme Les Rochers de François et Marie-Jo Sardet à Largas, mobilisés contre la gestion sanitaire de la grippe aviaire. La Confédération Paysanne et le collectif Sauve qui poule s'y sont donc retrouvés pour apporter leur soutien au couple d'éleveurs dont les volailles, poulets et canards ont été abattus ce jeudi. Tous estiment qu'aucun enseignement n'a été tiré des crises précédentes et que ces abattages préventifs de volailles saines sont absurdes, comme le dénonce Sarah Rezoug. Elle est éleveuse à Saint-Mémin, au micro de Jacqueline Pinon.
Il y a des tests qui ont été faits tous les 48 heures sur les animaux pour prouver qu'elles sont négatives. Et à ce jour, il n'y a aucune volaille malade sur l'élevage. Et là, il se trouve que c'est un élevage en volaille diversifiée, 100% plein air, autarcique, avec valorisation des volailles en circuit court et une conserverie sur la ferme. Là, ce qui est d'autant plus choquant, c'est que les volailles ne sont pas malades. Et que pour des éleveurs en circuit court comme Marie-Jo et François, c'est la mise à mort de leur système d'élevage. En fait, là, ce qui est, on va dire, quasiment pour nous tous, un tiers de notre chiffre d'affaires annuel, hein, ce sont les volailles de Noël. Et là, on va clairement abattre le peu de reste d'activité qu'ils auraient pu réaliser sur la fin d'année. C'est un coup de massue, clairement, c'est vraiment pire nouvelle qu'ils auraient pu avoir cette année. Clairement, c'est le système industriel qui veut passer le rouleau compresseur sur les petits élevages. Donc nous, on veut tenir tête et on veut être pris pour ce qu'on est, c'est-à-dire des élevages beaucoup plus résilients face à la maladie que les élevages industriels.
L'exploitation Les Rochers à Largas salarie 4 personnes à temps plein qui se retrouvent donc au chômage technique. Pour Europe Écologie Les Verts en Deux-Sèvres, rien ne justifie une telle décision, si ce n'est le dogme sanitaire défendu par le gouvernement qui préfère sacrifier des élevages sains pour protéger des fermes-usines dans lesquelles justement se développent les virus. Depuis jeudi, face à la diffusion de la grippe aviaire, le niveau de risque est désormais porté de modéré à élevé sur l'ensemble de la France, ce qui implique que toutes les volailles doivent être confinées.
Le retour du salon du fil à Montcoutan.
La commune retrouve l'un des plus importants salons amateurs du genre. La section broderie de la Maison pour tous a ajouté une journée à ce salon qui se tient depuis vendredi jusqu'à dimanche inclus. Les deux salles de la Chênaie accueillent 75 créateurs et exposants et sans doute près de 5000 visiteurs de toute la France, avec cette année comme invité d'honneur le Portugal. Joëlle Le Saint, la présidente du salon.
Le Portugal, parce que nous avions vu par internet une exposition dans un village qui est Vila Nova de Cerveira. Pendant le salon, nous allons avoir énormément de leurs réalisations, de très grands modèles, des personnages. Et nous avons surtout une contrebasse qui fait 4 mètres de haut dans l'entrée et qui est tout au crochet. Ils sont très sensibles aux traditions, donc on va aussi avoir des costumes traditionnels. Ils mettent en valeur vraiment leur patrimoine culturel.
En quoi leur broderie est-elle différente de ce que l'on fait ici ?
Alors, c'est du crochet. C'est pas de la broderie, c'est du crochet avec toutes sortes de fils.
Le salon du fil à Montcoutan se poursuit samedi et dimanche, entrée 3,50 €. C'est gratuit pour les moins de 10 ans.
Elle était autodidacte et rien ne lui résistait.
Marie-Louise Landreau, une vraie personnalité, un franc-parler et surtout une soif d'apprendre, de faire et de transmettre. Écoutez ce reportage signé Jacqueline Pinon.
C'est tout cela qu'était Marie-Louise Landreau, bressuiresse d'adoption, décédée en novembre 2019 à l'âge de 89 ans. Très impliquée dans la vie culturelle locale, à la poterie comme au verger des sculpteurs dont elle fut présidente, l'exposition rétrospective de la vie artistique de Marie-Louise parle d'elle-même, tant ses peintures, sculptures, tissages et broderies reflètent l'artiste généreuse qu'elle était. Qui mieux que l'un de ses 4 enfants, François, désormais bressuirait lui aussi, pour nous en parler.
Elle nous a laissé un témoignage de son passage qui est varié, dense, intense. Donc on va représenter ici qu'une petite partie de ce qu'elle nous a laissé à tous, sachant que beaucoup de choses sont parties à droite, à gauche, qui ont eu leur existence propre. On ne sait où aujourd'hui.
Comment vous définiriez son travail ?
Maman, c'était quelqu'un qui aimait faire, qui aimait donner, qui recherchait en permanence de nouvelles choses à réaliser, à créer, à découvrir. En fait, elle expérimentait tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle trouvait. Son travail, c'est ce que ça reflète, c'est-à-dire qu'elle a commencé par la peinture, puis elle s'est rapidement mise à la poterie, au tissage, à la dentelle, aux émaux sur cuivre, à la sculpture sur bois, sur pierre, etc. C'est une vie très très dense de ce point de vue, artistiquement parlant. Et puis, c'était aussi la transmission, c'est-à-dire que dans tout ce qu'elle a fait, elle a voulu voulu aussi transmettre, apprendre aux autres ce qu'elle avait, elle, découvert. C'est pas que faire pour faire, c'était vraiment faire et partager.
Nul doute que les anecdotes sur ses œuvres vont ressurgir lors du vernissage de ce samedi, comme cette nuit de 1981, à quelques jours de l'élection présidentielle, où Marie-Louise, accompagnée de l'ancien maire Claude Boutet, craignant quelques excès militants, avait préféré rester veiller les œuvres exposées dans la galerie, encore ouverte à tout vent à l'époque. L'artiste n'avait pas perdu son temps, profitant de cet intermède pour sculpter le portrait de Claude Boutet.
Une exposition proposée par les Amis des Arts à voir dans la galerie du musée tous les week-ends à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 décembre. Aucune œuvre n'est à vendre. Marie-Louise Landreau ne courait ni après les ventes, ni après la gloire, juste le plaisir de créer.
Le président du CNBB, le Cercle des Nageurs du Bocage-Bressuret, se réjouit du compromis.
Le compromis qui a permis d'obtenir de l'Aglo de Bé la poursuite des activités hivernales sur la piscine de Montcoutan, alors que les sites de Bressuire et Cerizet seront fermés entre le 3 décembre et le 3 février. Afin de limiter les dépenses énergétiques, on l'a déjà expliqué longuement. Sébastien Chevalier, le président du CNBB.
Notre demande, elle était qu'il y ait au moins un bassin d'ouvert pour que les nageurs et l'ensemble des usagers puissent continuer de profiter des bienfaits de la natation. Et nous, notre demande, on défendait essentiellement nos adhérents, on défendait nos trois entraîneurs qui sont salariés, et puis la natation générale. Donc les échanges ont permis comprendre l'ensemble des enjeux des différents parties et enfin d'aboutir à l'ouverture d'un bassin et celui de Montcoutan sur Cère. Nous avons échangé, on a compris les uns les autres les arguments de chacun et ça s'est fait intelligemment et on aboutit à ce résultat qui est très bien.
Et c'est une bonne nouvelle notamment pour les 15 nageurs du CNBB qualifiés pour les championnats régionaux et qui vont pouvoir continuer à s'entraîner.
L'actualité sportive de ce week-end.
En football, Cholet et Châteauroux ont fait un nul hier soir en national 0-0. En régional 1, Bressuire et Parthenay s'affrontaient dès hier soir et c'est le FCB de Patrick Olive qui s'est imposé 4-1 au terme d'un match un peu curieux, concédait le coach bressuirais au micro de Jean-Michel Bernier.
Match curieux parce que on a mis peu de rythme et beaucoup de déchets techniques, mais bon, on a fait l'essentiel en étant efficace 4 fois. Voilà. Après, il faudra élever le niveau technique, mais bon, on l'a déjà fait, il faut juste retrouver des choses plus simples, être plus juste et plus en équipe que ce qu'on a fait ce soir. Mais on va savourer quand même la victoire dans le derby.
Et on débriefera plus longuement ce Bressuire Parthenay demain dans Sport Matin. Dimanche, on fera de même avec le Chamois Nîmes de ce soir, dont le coup d'envoi sera donné à 19h. Ce sera à suivre sur Colline avec Antoine Judith et notre consultant Anthony Gauvin. En Régional 1, à l'affiche ce week-end, notamment Choret-Thouars. En Régional 2, notez cette confrontation entre Le Talus et Échiré-Saint-Gelais. En Régional 3, toujours pour ne parler que des confrontations de Sévrienne, Cerizet, Aubin-Rortet, Niort-Saint-Liguer contre Niort-Saint-Florent pour le duel de réserve. Et puis le Pays Mélois face à l'avenir 79 en basket, Niort joue à Toulouse. En N3 féminine, Choret joue à La Couronne. En rugby, déplacement également en National 2 pour Niort à Auch. En Fédéral 3, les clubs de Sévrien jouent à domicile. Choret face à la Chapelle-sur-Erdre et Parthenay contre La Roche-sur-Yon. Et puis en Régional 2, ça joue également à domicile pour le COP 79 face à Chauvigny, alors que Thouars accueille Treyer. Et puis un petit mot de tennis de table pour vous indiquer la superbe perf de la Romagne hier, vainqueur 3-2 à Jura-Moretz.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Il fait beau, Fabien, ce week-end.
Le soleil nous accompagne tout au long de la journée. Les températures sont à 9-10 degrés ce matin, de 19 à 21 cet après-midi. C'est printanier, un temps calme car très peu de vent. Demain, plein soleil également, 6 à 8 degrés le matin. Et jusqu'à 20 l'après-midi, la semaine prochaine s'annonce en revanche pluvieuse.
Merci Fabien, dernier rendez-vous de l'info près de chez vous.
À 10h, on fera un point sur l'essentiel de l'info près de chez vous ce matin. À tout à l'heure.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.